Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, notre dernière émission portait sur, et je devrais plutôt dire, était porté par Stéphane Mallarmé et son texte quasi testamentaire « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Et justement, ce hasard jamais aboli m'a porté à la rencontre du poète dont je veux évoquer l'œuvre aujourd'hui, Jean-Pierre Siméon. À dire vrai, chez la libraire que j'affectionne, c'est le titre d'un de ses recueils qui m'a aussitôt interpellé, Lettre à la femme aimée au sujet de la mort. J'en ai saisi la fulgurance et je l'ai aussitôt associé au poème de Cesare Pavese, La mort viendra et elle aura tes yeux. Verrà la morte et avrà i tuoi occhi. Cette même fulgurance redoubla lorsque j'acquis conjointement un petit essai du même poète intitulé audacieusement « La poésie sauvera le monde ». Et puis enfin, désireux de vérifier quelque chose dans le volume des œuvres de Mallarmé établi par Henri Mondor et Georges-Jean Aubry, j'ai rencontré, et je ne crois pas que ce fût par hasard, la phrase « Il peut avancer » parce qu'il va dans le mystère. Ne peut-on alors parler d'instant fatidique, puisque c'est l'achat de ces deux livres qui me fait rencontrer le souffle d'un poète qui est mon contemporain. Souffle, l'euphonie des syllabes de ce mot, ne dit-elle pas le vent? Ou plutôt anima, l'âme, ce qui nous anime. Et voici ce qu'écrit Jean-Pierre Siméon dans un autre petit manifeste à qui, plus tard, le petit éloge de la poésie. Non seulement la poésie est le retour à la vie de la langue, elle est même la seule langue vivante. Comment les poètes s'y prennent-ils en introduisant dans la langue les qualités intrinsèques de la vie? Son libre mouvement, c'est le rythme, son instabilité et son imprévisibilité, c'est l'ouverture du sens, son désordre, c'est le dérangement de la syntaxe, les liens incongrus, c'est mettre comme Hugo un bonnet rouge au dictionnaire, son infini, c'est le mystère, et surtout, surtout son souffle, son anima qui fait reconnaître le poème où la langue respire. Le petit volume de la collection NRF Poésie Gallimard ne contient pas seulement les 25 poèmes de la lettre à la femme aimée au sujet de la mort, il rassemble aussi d'autres poèmes avec les titres « Le bois de hêtre » et « Fresque peinte sur un mur obscur ». On connaît et on cite souvent l'affirmation du philosophe Adorno « Écrire un poème après Auschwitz est barbare ». On dit moins souvent qu'il a ensuite admis, je le cite, « La sempiternelle souffrance a autant de droit à l'expression que le torturé celui de hurler ». C'est pourquoi il pourrait bien avoir été faux d'affirmer qu'après Auschwitz, il n'est plus possible d'écrire des poèmes. Lisons alors le poème liminaire qui donne son titre à l'ensemble du recueil « Le bois de hêtre » et qui, surtout, apporte un démenti au premier jugement d'Adorno puisqu'il évoque le lieu où fut déporté l'écrivain Jorge Semprún. Le bois de hêtre, Buchenwald. Mais sur la route qui va d'Erfurt à Weimar, entre l'incendie noir d'Hölderlin et l'arbre des couleurs que Goethe convoitait, le soleil doute. Le ventre de la colline est atteint d'un gris lent et pur, comme un chagrin. Ô fontaine maraudée par le vent, verte fontaine des innocents, dont nul ne sait plus la transparence ni la raison, tu cherches un corps à ton sommeil dispersé comme un gisant de feuilles. Ici, le silence, à le grain d'un papier, aussi vieux que le monde, un papier cousu dans l'âme même des innocents, et sur quoi s'écrit le poème incertain et sans mots d'une douceur brûlée. Au jardin de Weimar, dans l'averse des branches, le vent et la mémoire remuent et le soleil trie les ombres dans nos yeux. Petit éloge de la poésie déjà citée et l'essai polémique mi-pamphlet, mi-manifeste intitulé « La poésie sauvera le monde » composent tous deux une sorte de mosaïque où l'on rencontre comme autant d'aphorismes des tentatives visant à souligner le caractère vital et essentiel de la poésie. Ainsi seront cités les poètes René Char, le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir. André Chédide, la poésie est l'eau de notre seconde soif. Georges Perros, la poésie n'est pas obscure parce qu'on ne la comprend pas, mais parce qu'on n'en finit pas de la comprendre. André Dubouchet, la poésie n'est qu'une certaine sorte d'étonnement et les moyens de cet étonnement. Paul Celan, les poèmes sont aussi des présents destinés aux attentifs. Jean-Pierre Siméon, quant à lui, citant indirectement le livre d'Yves Bonnefoy, L'arrière-pays, livre aussi cette affirmation capitale « Tout poème a pour arrière-pays la mort ». Pourtant, ce serait se tromper que de croire la poésie porteuse de mort mortifère, puisque dans la même page, Jean-Pierre Siméon rappelle ce jugement du philosophe Gilles Deleuze « La joie, c'est être présent à plus grand que soi ». Aussi, Ce dépassement est-il aussi souligné par ce propos du poète Odysseus Elitis, « Là où la montagne dépasse du mot qui la désigne, se trouve un poète ». Pour mesurer la résonance des présents destinés aux attentifs, dont Jean-Pierre Siméon nous fait don, le choix portera à lire quelques-uns des 25 poèmes qui composent la lettre à la femme aimée au sujet de la mort. À dire vrai, il faudrait les lire in extenso, puisque leur incandescence va comme crescendo. Lisons d'abord le 11e poème de cet ensemble. Il n'y a pas de consolation, t'ai-je dit, alors que tu ignorais, lointaine à mes côtés, ma main posée dans ta main. Ah, comme je savais que ce qu'il me fallait libérer dans ton silence était chose rude, malvenue. Quoi donc ? Cela que je répétais dans l'ombre, avec la demi-voix qu'on a devant la tombe, on porte avec sa vie l'inconsolé comme son sang. Quand on a vu le visage de l'agonie, on ne revient pas chez soi sans honte. Si puissante soit la douceur des bras qui nous attendent, on ne peut perdre son ombre au porte-manteau et se croire, fût-ce un instant, épargné. Désormais, un poids nouveau pèse sur tes épaules. À toute heure, une fatigue dormante tient la pensée. Rien n'est saisissable du jour ni de la nuit, et les mots même, on ne les habite que par défaut, comme la lumière ses lampes, comme le baiser la bouche. Sois douce avec l'invisible. Dans ma main, posée sur ta main, il n'y a pas de consolation, mais une patience qui nous tient prêts au bord du gouffre et de la joie. Le poème 12 de la section. Je t'écoutais parler à ton enfance, comme on fait près du feu, le corps respirant les flammes. Tes mots riaient dans les larmes, si même c'était des larmes, cette ombre pure vibrant sous ta paupière. Dehors, des jeunes gens jetaient des cris sur le ciel bleu, comme des pierres. La lumière crevait la vitre des fenêtres, une radio oubliée chantait pareil à la solitude. C'était un jour violent comme l'été, et tu parlais à ton enfance doucement dans cette langue d'étrangère qui, avec patience, demande son chemin à qui ne le sait pas. Savais-tu, tandis que ta voix buvait le silence, combien il te faudrait franchir d'adieux pour trouver la force de chérir, sans mots ni larmes, tes vies disparues? Alors ici, enfin, plus rien, plus le dernier sourire sans bouche, plus la chambre close sur son architecture de poussière, et plus ce grincement du cerisier où l'oiseau empiégé, t'en souviens-tu, déchira ses ailes. Alors, seulement, cette veille parfaite dans la mémoire où ton enfance est là, qui te regarde, aimée et advenue. Elle te prend dans ses bras et c'est elle, désormais, qui te redit le songe. Thank you. Lisons à présent le 13e poème de cette même section. Écoute, oh, écoute, ma jeune, ma tendre, ma pleureuse, il y a lointainement un chant, comme un écho des vagues qui battent dans la mer, loin une voix qui chante dans le néant. Ce n'est pas une image, ce n'est pas l'argument de douceur que voudrait le poème. Je n'invente pas, ni ne cherche à faire vivre la mort plus que son dû. Nous savons, il n'y a pas de clémence, mais, oh, écoute, ouvre l'oreille dans la fureur, laisse la bataille, entends ce qui ne vient ni du ciel ni de l'âme, la chose qui n'excède ni le temps ni le lieu, elle est dans la vie pleine et en elle se connaît. Pour cela, nul nombre d'or et nulle pensée n'en viendra à bout. C'est un chant, à peine, une phrase de lumière posée dans l'instant. Nous n'avons pas de dieux à croire, depuis que nous savons rêver les yeux ouverts, depuis que nous savons qu'il n'y a d'éternité que celle que les amants s'offrent l'un à l'autre. Nous ne sommes que de ce monde, mon amour, et face à la mort qu'on lit sans comprendre, entend la part heureuse qui parle dans ta nuit. Puis le poème 14. Que peut la poésie contre la mort ? Rien. Que peut dire la poésie de la mort ? Rien. Le trou des cimetières l'avale, et sur la tombe, le poème demeure une croix stupide, rouillée par les vents. Mais le poète peut parler entre le soleil et la mort. Il dit « Nous parlerons aux vivants du vivant pour partager l'absence et le chagrin, la main posée sur la poitrine de ceux que nous aimons. » Il dit encore « Le cœur éphémère est roi, lui seul est comptable des sept nuits de la douleur, à lui seul joie plénière. Nous pouvons comprendre avec un corps d'ardeur la confusion des herbes au soir et la netteté du givre au matin. » C'est beaucoup qui, si l'amour l'accomplit, ne saura suivre la spirale montante qui lie la terre au dernier ciel de la conscience. Toutes les gloires, tous les drames, nous les tenons là dans nos mains. La cruauté, nous la savons, jusqu'à la racine des cheveux. Nous disparaissons déjà, mais laissons la poussière des fables filer entre nos doigts. Tenons le pas sur la terre verte. Tenons-nous au travail du galet dans le ressac. Soyons simples avec la beauté. Aimons-la, incomplète et solitaire, comme une ruelle oubliée derrière les ruines. Et vivons d'un jour à l'autre, pareil à ces nomades dont le sel brûlait les pieds, mais qui s'abreuvaient au lait inépuisable des songes.
Fürchte heute nicht.
La pièce numéro 24. Rien n'est plus beau qu'un amour qui ne se croit pas immortel, qui a la souple respiration du voilier endormant la vague, prodige, oui, mais qui se sait tributaire d'un vent si incertain qu'il voudrait d'un seul déploiement de son air boire toute une nuit d'étoiles et de lune pleine. Un amour comme une joie d'enfance, grandi de sa fin trop proche, et qui se tient timide au fait de l'instant, ni d'hirondelle dans le noir. Ah, ce n'est pas cela, un amour de légende, qui se targue des mélancolies et geint à genoux sous la couronne des roses. Toi, mon aimé, demeure princière en ton rire, chaque matin devant ta mort et ma mort, sois libre et fière et ferme, car il suffit de la caresse d'un rire pour que tout en nous se recompose et que soit le monde uniment sous nos mains le passage et la durée, la nudité d'une âme dans la douceur du corps. Nous mourrons, mon amour, sans rien perdre, si nous séjournons, visages étonnés, dans l'instant qui nous prolonge, et fait de nos gestes les plus simples, baisers, murmures, épaules lentes, un feu dormant. Demeurons, mon aimé, fût-ce au cœur d'un sanglot silencieux, une joie ouverte, sommet de l'éclair, rire et bonté, persistant dans la disparition. Le poème 25. Ma bien-aimée, je ne te parlerai pas de ma mort, tu l'as connue déjà. Il faudra bien que nous ayons une épaule pour deux et l'appuyer à la hauteur du ciel quand le vide adviendra. Il faudra bien sortir de la douleur pour que nous nous retrouvions. Vois, depuis que nous fûmes l'un à l'autre un langage sensible et que nos lèvres retinrent du chant le bonheur inexprimé des choses, il n'y eut plus ni date, ni temps compté. Cette angoisse de peu qui pèse les cailloux dans la poche et mesure la béance sous l'aile de l'oiseau. Ma bien-aimée, ma mort est déjà d'hier. Tu as franchi le cri une première fois. Nous sommes du plein été, non aveugles, mais puisant la lumière à des sources plus humaines, derrière le ciel de chaque instant, dans l'eau première de nos nuits. Il n'y a pas lieu d'imaginer les formes de l'absence, que ton sein frissonne sous mes mains, et depuis longtemps déjà, le frisson a compris le froid sous la chaleur. Ma bien-aimée, le danger n'a rien d'obscur, et ton amour n'est pas terre d'abandon, ni ta pensée une eau qui fuit la mer, et du premier jour au centre de notre miracle, nos doigts ont touché la meurtrissure. Au bord du jour, tes larmes, inlassables, rendront leur cœur à ceux qui t'aiment. Il n'y a pas lieu de s'incliner sur le mort. Les dieux tombent avec le vent. Ton sourire, lui, t'élève à jamais.
Oh.
Les poèmes lus disent le mystère que soulignait la phrase citée de Mallarmé. Du verbe grec muo, se tenir les yeux fermés et la bouche close, et du mot grec mystis, qui signifie initié au mystère ou initiateur, puisque les Grecs anciens donnaient cette épithète à certains de leurs dieux, Bacchus ou Apollon. Alors oui, la poésie de Jean-Pierre Siméon est celle d'un initiateur qui affirme encore, je le cite, « Oui, la poésie est inquiétante, elle récuse par principe la quiétude du sens, elle est même davantage une leçon d'inquiétude. » Au cours de cette émission, vous avez pu entendre successivement le Kaddish de Maurice Ravel pour violon et piano, avec Jacques Israelevitch au violon et John Greer au piano, mais il en existe des versions chantées. Rappelons qu'il s'agit d'une prière de deuil que les fidèles juifs récitent plusieurs fois lors de la prière du Shabbat. Ensuite, une pièce pour piano de Francis Poulenc intitulée « Mélancolie », interprétée par Pascal Roger. La sérénade de Franz Schubert, « Sternchen », chantée par le baryton basse Hans Otter. Et enfin, toujours de Schubert, la pièce « Nacht und Traume », interprétée par la soprano Barbara Hendricks, avec Radu Lupu au piano. Ces deux derniers morceaux, me semble-t-il, cassant définitivement les reins du préjugé qui veut que la langue allemande soit barbare et gutturale. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.